qu'est-ce que c'est que l'action terroriste, en tout cas l'action terroriste de masse comme celle qu'on a subie? C'est une action d'un groupe violent contre la société civile, mais visant l'État.
L'État d'urgence, il n'a pas du tout pour objet de chercher des terroristes, il a pour objet d'empêcher des actes de terrorisme.
Suivez-nous, les nouveaux chemins vous installent aujourd'hui sur scène dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, devant un public de près de 1000 personnes qui s'est réuni samedi 30 janvier dernier pour écouter 5 débats avec à chaque fois 3 philosophes venus réfléchir ensemble aux enjeux philosophiques de l'année écoulée. Ces débats ont été préparés grâce à l'équipe des Nouveaux Chemins, Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy et Marianne Chassor, orchestrés par l'équipe de communication de France Culture, réalisés par Mediaportis Guérin avec à la prise de son Christophe Michou, Christophe Goudin, Benjamin Perru et Mathieu Leroy. Ces débats ont été organisés en partenariat avec Philosophie Magazine. Voici donc cette semaine la diffusion dans leur intégralité de ces émissions débat. Lundi dernier, vous avez pu entendre Magali Besson, Frédéric Worms et Alain Renaud réfléchir au rôle du philosophe dans les situations d'urgence, entre nécessité du temps long pour la réflexion et contrainte de l'événement. Mardi, la philosophe Cynthia Fleury, l'historien et sociologue Pierre Rosanvallon et l'historien Olivier Dard ont réfléchi aux nouvelles problématiques liées à la représentation, entre abstention et montée de l'extrême droite en partant d'une question « La démocratie nous représente-t-elle encore ?» Hier, les philosophes Sophie Gérard de Latour, Alain Finkielkraut et Thierry Leger sont venus interroger les notions d'identité et de nationalité, à partir d'une autre question « Qu'est-ce qu'être français ?» Demain vendredi, pour les chemins du vendredi, eh bien ce sera Régis Debray qui viendra vous proposer sa leçon de clôture autour d'une actualité, son actualité, l'œuvre de Walter Benjamin. Mais vous l'entendez, le public s'impatiente, il est temps de rejoindre le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour notre 4e débat. Animé aujourd'hui par Géraldine Mosna-Savoie, un débat qui réunit les philosophes Bruno Barnardi, Roselyne Lettron et Michael Fessel autour d'une question qui a fait couler beaucoup d'encre l'an dernier : la sécurité est-elle la condition de la liberté ?
Eh bien, bonjour à tous. Donc, pour ce 4e et dernier débat, la question posée semble assez simple. La sécurité est-elle la condition de la liberté? Et pour y répondre, du moins pour l'éclairer, j'ai donc le plaisir de vous présenter à ma gauche Roselyne Lettron, professeure de droit public ici à la Sorbonne, auteure de Liberté publique, disponible en e-book et du blog Liberté chérie. Encore à ma gauche, Michael Fossel, philosophe, professeur à Polytechnique, auteur de l'état de vigilance et du temps de la consolation qui vient de paraître au seuil. Et enfin, encore à ma gauche, Bruno Barnardi, philosophe, auteur donc de la démocratie disponible chez Flammarion et du principe d'obligation sur une aporie de la modernité politique paru chez Vrin. Bonjour à vous tous, bienvenue.
Bonjour.
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 Alors, la sécurité est-elle la condition de la liberté? C'est une question assez classique, à la fois en philosophie et en droit, mais qui a, comme on le sait, une actualité brûlante. Depuis les attentats du 13 novembre dernier, la France est en effet en état d'urgence qui a été prolongé jusqu'au 26 février au moins, et dont la spécificité est à la fois de donner un pouvoir plus grand aux autorités civiles et de restreindre par là même certaines libertés, comme celle de se réunir, de manifester, de circuler d'un territoire à l'autre. Cela au nom, et là je cite la loi de 1955, d'un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou d'événements éléments présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Alors si on commence déjà à entendre une inquiétude face à une telle antinomie d'un état d'urgence permanent, inquiétude face à la restriction des libertés, face au pouvoir étendu de l'État et de ses forces, il reste que la majorité des Français, selon des sondages récents, y est favorable, faisant entendre quant à elle un besoin de sécurité après les chocs. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est que dans ce débat, la confusion peut-être que l'on fait, c'est d'identifier la liberté à la sécurité, plutôt que la sécurité comme condition de la liberté, finalement, l'une serait apparentée à l'autre. Sur ce point, Michael Fossel ?
Oui, quand on dit que la sécurité est la première des libertés, on peut évidemment l'entendre dans un sens, je dirais, de priorité quasiment chronologique, c'est-à-dire que pour exercer sa liberté, il faut évidemment que des conditions de sécurité soient remplies, mais tendanciellement, cette formule vise à assimiler la sécurité à une liberté, c'est en un sens hiérarchique, je dirais, c'est-à-dire que la sécurité permettrait de redéfinir l'ensemble des droits ou des libertés qui sont constitutifs de l'éthos ou de la vie démocratique. Alors, souvent, comme argument en faveur de cette primauté de la sécurité sur l'ensemble de nos libertés, on affirme que la sécurité, après tout, est un droit de l'homme, ou fait partie des droits de l'homme. Et là, je crois qu'il est important de faire une distinction, parce que en réalité, la sécurité n'est pas dans la déclaration, le terme, le mot sécurité ne se trouve dans aucune des déclarations des droits de l'homme, à ma connaissance, en tout cas ni celle de 89, ni celle de 1948. En revanche, ce qui se trouve dans ces déclarations, c'est le concept de sûreté. Je crois important peut-être de distinguer ces deux concepts parce que lorsqu'on dit la sécurité est la première des libertés, quand on le dit aujourd'hui, je veux dire, et effectivement à l'aune de ce que vous avez rappelé en termes d'attentats terroristes ou d'état d'urgence, on parle du rapport qui s'établit entre des individus dans la société. C'est-à-dire au fond, nous sommes de fait d'ailleurs menacés les uns par les autres ou les uns par des groupes terroristes. Mais les penseurs et les politiques ou les constituants qui ont voulu inscrire la sûreté dans les droits de l'homme ou dans les déclarations des droits de l'homme ou comme droits de l'homme pensaient à toute autre chose. Ils pensaient au rapport entre l'individu et l'État. C'est-à-dire que la sûreté du citoyen, on trouve ça chez Montesquieu par exemple, la sûreté du citoyen, c'est une condition de la liberté, pour le coup, c'est une liberté, c'est même la liberté politique pour Montesquieu, mais ça désigne le fait pour un citoyen d'être protégé de l'État, c'est-à-dire de la tentation permanente d'un pouvoir à, comme le dit Montesquieu d'ailleurs, à abuser ou à abuser absolument lorsqu'il est lui-même absolu. Donc je pense qu'il faut avoir toujours à l'esprit que la sécurité est une exigence sociale, tout à fait légitime, mais que la sûreté, c'est-à-dire les garanties qu'a le citoyen par rapport aux potentielles intrusions de l'État via le renseignement, via la police, via la justice, dans la vie privée, la sûreté est un droit qui ne doit pas nécessairement, ou dont il faut essayer de penser qu'il ne soit pas, ou de faire plutôt qu'il ne soit pas, sacrifié à la sécurité. Car aujourd'hui, on a une tendance à considérer que l'État, en quelque sorte, du fait même que les groupes terroristes visent à la fois la société civile et l'État en attaquant ou en faisant des attentats, l'État serait, je ne parle pas de l'État français ici, mais de l'État comme structure, serait spontanément l'allié des citoyens en toute occurrence. Or, nous savons bien que l'État, les États, en l'occurrence ici les États-Unis, sont aussi potentiellement des intrusifs par rapport à la surveillance, je pense aux scandales en particulier, qui sont révélés par les lanceurs d'alerte. Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre, non pas entre sécurité et liberté seulement, mais entre sécurité et sûreté.
Sur ce point, Bruno Bernardi, est-ce que
oui,
vous...
alors, juste pour ce Allez-y. Premier tour d'horizon, je serais pour ma part tenté de répondre qu'il faut inverser la proposition, c'est-à-dire que la liberté est la condition de la sécurité. Mais on y reviendra. Alors, je crois que Michael vient de rappeler, c'est important, l'histoire du vocabulaire qui n'est pas innocente, et de dire que, dans la Déclaration des droits, mais pas seulement, c'est le terme sûreté qui était employé. Le terme massivement employé au XVIIIe siècle, par exemple, chez les penseurs politiques du XVIIIe siècle, c'est la sûreté. Mais je ne contredis absolument pas ce que tu as dit sur l'idée que la sûreté, dans ce vocabulaire-là, dans cette pensée-là, c'est la sûreté de la personne qu'il faut effectivement défendre contre l'État. D'ailleurs, ce n'est pas tellement ici contre l'État, mais contre l'arbitraire tyrannique. Et on est dans une logique, on en reparlera d'un point de vue juridique sans doute, qui est celle traditionnellement anglaise de l'habeas corpus. Mais on retrouve la même difficulté dans le vocabulaire de l'époque, et ça n'est pas pour rien. Quand Napoléon va créer des instances, etc., de police, cabinet noir, etc., c'est sous la vocation de la sûreté. Mais ici, la sûreté étant entendue, je dirais, dans son osant pas, là où on voit que vraiment la tension est constitutive, l'idée de la défense, entre guillemets, de ce qui serait l'ordre public, et d'ailleurs le terme qui est employé généralement à ce moment-là, c'est la tranquillité. Il faut assurer la tranquillité publique, qu'il n'y ait pas de trouble, et ici, ça, par exemple, ça s'oppose généralement aux actions collectives, aux émotions populaires, qu'elles soient spontanées ou pas. On a donc, je m'arrêterai là, mais on voit bien de ce point de vue que, au fond, c'est dans la problématique même, et là l'évolution des concepts de la sûreté ou de la sécurité, comme on voudra, qui est inscrite la tension, je dirais déjà, et peut-être qu'elle est plus déterminée, conceptuellement plus précise.
Roselyne Létron, sur ce point, est-ce que vous pensez que la sécurité est du côté de la tranquillité des sujets, quand la sûreté serait du côté de la liberté des sujets? Quelle distinction fait le droit entre sécurité et sûreté?
Alors, la distinction que fait le droit, alors, je veux dire, il faut revenir, parce que si j'entends bien ce que j'ai déjà entendu, en fait, on a deux fois deux couples, c'est-à-dire qu'on a le couple sécurité-liberté et on a le couple sûreté-sécurité. Donc je vais revenir un peu sur chacun d'entre eux. Sécurité-liberté, pour le juriste, c'est, passez-moi l'expression, un vieux couple. C'est-à-dire que, en fait, on a vu apparaître le débat avec la loi perfide de février 1981, qui s'est appelée la loi sécurité et liberté, et qui, à l'époque, avait fait énormément de bruit. Et on voit exactement en 81 les mêmes oppositions, les mêmes débats, les mêmes arguments qu'aujourd'hui. C'est tout à fait intéressant sur ce plan. Et pour le juriste, ce couple-là, c'est surtout un couple mal assorti, parce que, en fait, si le principe de liberté est un principe constitutionnel absolument incontestable, il figure dans la déclaration que tout le monde connaît, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », et cette déclaration, elle a intégré les normes constitutionnelles de droit positif, c'est-à-dire de droit tel qu'il existe aujourd'hui, elle est invocable devant le juge depuis une décision du Conseil constitutionnel de 1973. Donc, on n'a pas de problème avec le principe de liberté. En revanche, le principe de sécurité, disons pour schématiser, c'est une jurisprudence un peu compliquée, mais le Conseil constitutionnel admet aujourd'hui qu'il s'agit d'un objectif à valeur constitutionnelle. C'est sa formulation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en fait, il va apprécier l'intervention de la loi, il va apprécier la loi en mettant en équilibre, en fait, sur les différents plateaux d'une balance hypothétique, l'intérêt des différents éléments, et parmi ces éléments, la sécurité est un élément à prendre en cause. Mais ça veut dire tout simplement que le Conseil va accepter d'apprécier la loi, d'exercer ce qu'on appelle son contrôle d'opportunité par rapport au principe de sécurité. Ça ne signifie pas en soi que vous ou moi pouvons invoquer le principe de sécurité devant un juge. Ça n'est pas un principe constitutionnel que l'on puisse invoquer. Ce qui fait que notre couple est bancal. La liberté peut être invoquée devant un juge, la sécurité ne peut pas l'être. Alors maintenant, notre deuxième couple, sûreté, sécurité. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Michael Fessel sur le fait que la sûreté, qui figure dans la déclaration de 89, est un principe qui vise à protéger l'individu contre l'État. La sûreté, c'est un principe qui a été créé à l'époque où on craignait les lettres de cachet, où on craignait les enfermements, où on craignait tous ces problèmes-là. En même temps, il se distingue tout de même un peu. L'idée, c'est un peu l'habeas corpus, c'est vrai, je rejoins ce que vous avez dit, mais pas tout à fait. Pour une raison très simple, c'est que le droit français est plus dogmatique que le droit anglo-saxon. Pour le droit anglo-saxon, l'habeas corpus, c'est un ensemble de procédures. C'est-à-dire qu'on va demander à un juge de prendre un ordre pour faire sortir la personne. Ça va être une procédure. En droit français, c'est un principe de fond qui s'énonce de la façon très simple, qui dit que nul ne peut être arrêté ou détenu qu'en vertu d'une loi. Voilà. Et c'est quelque chose de tout à fait simple. Ça, c'est le principe de sûreté. Pour un juriste, il n'a rien à voir avec le principe de sécurité. Ce qui ne signifie pas que l'amalgame ne soit pas parfois réalisé dans un but qui est un but, par exemple, politique. Moi, j'ai entendu certains grands criminologues très bien introduits auprès de certaines grandes autorités affirmer d'un ton sentencieux que le principe de sécurité était dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire que, hop, ils considéraient que le principe de sécurité et sûreté, c'était dans le même, dans la même grosse gamelle, et puis qu'il suffisait de tourner pour faire sortir quelque chose. Non, pas du tout. Le principe de sécurité n'a pas valeur constitutionnelle, ce qui ne signifie pas que la loi ne puisse pas le prendre en compte. Ce qui fait que pour un juriste, en fait, il n'a pas à se poser la question, c'est très commode pour lui, si la sécurité est la condition de la liberté ou la liberté est la condition de la sécurité. Pour lui, ça n'est pas une question qui se pose en droit positif, ce qui ne veut pas dire que nos amis philosophes ne se la posent pas.
Michael Fossal ?
Oui, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je ne pense pas, cela dit, que ça ne soit qu'une question pour les philosophes, c'est une question pour les citoyens, parce que ce à quoi on assiste, et là on renvoie peut-être plus à la configuration politique actuelle, c'est à la montée en puissance, pas d'ailleurs depuis le 13 novembre, depuis au moins une quinzaine ou une vingtaine d'années, la montée en puissance au niveau de la politique intérieure et de la politique internationale, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, de ce concept de sécurité. On parle par exemple, je citais la politique internationale, l'ONU s'est fixé comme objectif la sécurité humaine, c'est-à-dire de garantir un ensemble de droits minimaux, ou même d'ailleurs aussi de biens minimaux, en termes, disons, de santé, en termes de bien vivre, ou en termes de matériel, pour tous, et qui, au nom de cette sécurité humaine, là on est effectivement très loin de la, enfin apparemment d'ailleurs très loin de la sécurité dans le sens, je dirais, pénal ou dans le sens juridique ou policier du terme, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce concept de sécurité qui, somme toute, je crois qu'il faut le dire aussi dès le départ, est un concept qui a une compréhension minimale et donc une extension maximale, c'est-à-dire qu'on peut lui assigner tout un champ d'expérience. Il y a la sécurité sociale, il y a la sécurité évidemment publique, il y a la sécurité au niveau de la santé, il y a la sécurité humaine. Et donc, ce qui me paraît tout à fait caractéristique du présent, et je répète, pas le présent immédiat, le présent lointain déjà, c'est cette tentation que l'on a, non seulement les gouvernements, mais souvent les citoyens, à retraduire l'ensemble des exigences politiques qui sont les nôtres, ou qui ne sont plus les nôtres, mais enfin qui sont celles du droit, dans les termes de la sécurité. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on ne peut pas parler du couple sécurité-liberté, ou même du concept de sécurité, sans faire référence au fait que ce que l'on appelle à tort ou à raison la dépolitisation, ou le fait qu'il y a en réalité plutôt de la part de nombreux citoyens occidentaux, en tout cas, une espèce de lassitude à l'égard du politique, ou une déception à l'égard des attentes politiques plus classiques que sont l'émancipation, la réalisation d'un certain nombre d'objectifs sociaux, fait que la sécurité se constitue en quelque sorte en vocable de substitut, en tout cas l'hypothèse que je fais, par rapport aux exigences, disons, qui sont, je répète, plus traditionnelles, ou en tout cas les exigences modernes de la démocratie, qui, elles, se disent plutôt dans le vocable de la sûreté, des libertés, de l'égalité ou de la justice sociale, comme si, finalement, les États, qui sont, on le sait bien aujourd'hui, non fragilisés par la mondialisation, les États offraient en quelque sorte, prétendaient offrir la sécurité. Je rappelle qu'en termes de législation, je parle sous votre contrôle, mais enfin, on en est à peu près en France depuis une quinzaine d'années à une loi quasiment sécuritaire par an. Donc il y a là à la fois une offre sécuritaire de la part de l'État extrêmement importante, et peut-être on l'évoquera aussi dans le débat, une demande sécuritaire pour expliquer cela, je crois que de la part de la société. Pour expliquer cela, je crois qu'il faut aussi faire référence à une sorte de désillusion à l'égard du politique, ou en tout cas du politique institutionnel, dont l'abstention par exemple n'est qu'un signe parmi tant d'autres.
On peut l'évoquer dès maintenant. Il y a donc deux dimensions dans ce que vous venez de dire, Michael Fossal. Il y a d'une part l'État, le gouvernement qui mise sur la sécurité, et d'autre part les sujets, les individus en tout cas qui sont membres de la société, qui eux aussi ont un désir de sécurité. Alors qu'est-ce que ce double mouvement traduit du rapport à la politique ? Est-ce que c'est une incapacité du gouvernement à faire une politique qui soit sociale, qui, plutôt que d'offrir une sécurité qu'on puisse entendre comme une des protections sociales, politiques, tente de miser sur une sécurité qui soit une barrière face à une menace venue de l'extérieur un petit peu confuse? Ou est-ce qu'aussi ça va de pair avec ces individus qui ont seulement envie d'être isolés, d'être tranquilles et à l'écart de toute agitation politique? Bruno Bernardi.
Oui, alors avant, je pense que c'est une question importante sur laquelle nous pourrions nous attarder un moment, qui est celle de savoir si, comme on se représente au fond facilement aujourd'hui, c'est entre guillemets les pouvoirs, les institutions, l'État qui sont porteurs d'une volonté entre guillemets de sécurisation de sécurité, ou si, mais ce n'est pas contradictoire, il y a un appel à cette... Mais justement, avant d'en venir là, si vous me permettez, je voudrais faire un bref détour de contextualisation. Michael vient tout à l'heure de replacer sur le moyen terme de notre modernité proche la montée en puissance de ces thématiques de la sécurité qui sont liées à ce qu'on a appelé la société du risque, etc. Et c'est intéressant de voir que c'est d'abord venu sur le terrain social et sur le terrain du travail. Mais je voudrais insister un peu, au fond, cette journée porte sur le regard des philosophes sur l'année 2015, donc je voudrais resserrer un peu la focale sur l'année 2015. Pour faire cette remarque, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui contribue au fait incontestable ? Parce que nous sommes en train d'essayer de faire un travail d'élucidation conceptuelle, et je crois que c'est notre job, il faut le faire, mais s'il est aujourd'hui nécessaire, c'est qu'on est dans la plus grande confusion conceptuelle. Or, les effets de confusion ici, par quoi sont-ils produits ? Eh bien, il me semble massivement d'abord par le fait que cette année 2015 a été marquée par trois phénomènes qui ont été amalgamés. Le premier, bien entendu, il n'est pas nouveau, mais il a pris... c'est la guerre. La guerre comme existante et les dimensions qu'elle a prises au Moyen-Orient, en Syrie, mais pas seulement en Syrie, potentiellement larvée en Turquie, etc., en Libye, etc. Le deuxième phénomène, bien sûr, c'est le terrorisme, qui est lié au premier, mais qui en est distinct. Et le troisième, et pour le coup, l'année 2015 en France, ça commence avec Charlie Hebdo et ça finit avec le Bataclan. Troisième phénomène, derrière, qui, que nous le voulions ou non, et c'est ça le problème, est ressenti comme relevant la même problématique, c'est la question des flux migratoires. Ce qui fait l'amalgame entre ces trois phénomènes est d'autant plus, je dirais, fort et en même temps pernicieux, que chacun doit être dédoublé. Parce que lorsque on évoque la question de la guerre, il y a bien sûr cette réalité des guerres qui se sont développées et qui se développent aujourd'hui, tous les jours, au Moyen-Orient. Mais la deuxième dimension de cette guerre, c'est les interventions des pays occidentaux, dont la France, qui sont partie prenante de ces guerres, et pas seulement spectatrices. Je ne porte aucun jugement sur la chose, je fais simplement ce constat. De la même manière, les attentats ont une deuxième polarité, c'est qu'on les appréhende comme venant de l'extérieur. Ce sont des commandos qu'on va retracer le trajet, entre guillemets, par exemple, qui les mène de Syrie jusqu'au cœur de la capitale française, avec toujours cette ombre derrière. C'est que ce trajet est un trajet, pour un grand nombre d'entre eux, retour. C'est-à-dire que ce phénomène, entre guillemets, d'agression extérieure est en même temps un phénomène qui a des racines, qu'on le veuille ou non, dans notre société. Le problème de l'immigration lui-même est double encore, puisqu'il y a le phénomène de très longue durée qui est celui de l'immigration pour des causes économiques et climatologiques de plus en plus, lequel a commencé il y a bien longtemps et dont il faut qu'on sache qu'il va durer, et le problème plus conjoncturel des réfugiés qui, eux, sont en fuite, mais bien sûr, ça peut être sur les deux à la fois. Pourquoi est-ce que je retrace là ? C'est parce qu'il me semble qu'il y a des effets de confusion et des effets de masque. Ce qui a pris le devant, c'est la thématique de la guerre, de l'agression face à laquelle il faut se défendre. Et du coup, d'ailleurs, des impératifs qu'on demande d'accepter pour cette défense. On est dans une problématique, je dirais, de la guerre. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça ? De produire deux phénomènes. Un sur lequel je n'insisterai pas pour l'instant, qui est celui qui se traduit par l'idée que non, tournons les yeux, ce qui se passe ne vient pas de chez nous. Si on commence à vouloir expliquer comment on devient djihadiste, alors on veut l'excuser. Ici, on est dans une logique où l'impératif de défense devrait se traduire par un impératif d'ignorance, voire de stupidité. Excusez-moi, mais il faut appeler à un moment donné un chat un chat. Et le deuxième phénomène, la deuxième dimension qui me paraît encore plus importante, c'est qu'on est en train, sous ce couvert, de recouvrir, et je dirais de dilapider, ce qui a été une des grandes conquêtes intellectuelles, politiques, juridiques de l'Occident. C'est-à-dire la distinction, ces deux formes complètement, impérativement, même si elles ont bien sûr des liens, à séparer, de l'hostilité extérieure, c'est-à-dire la guerre, qui est un problème de droit public international, et le problème des hostilités ou de la violence interne, intra-étatique, et qui, elle, est à appréhender dans une logique, non pas de la guerre, mais de la justice et de la police. Et ça, cette distinction fondamentale, je veux dire, la disparition, et c'est pas un hasard si c'est lié à la question de la souveraineté, c'est que la séparation de ces deux dimensions-là, elle avait, entre autres, comme enjeu, qu'on ne peut pas traiter les problèmes internes, violence, d'une société comme on traite les problèmes de la guerre. On a incontestablement affaire à un agent de dépolitisation par l'invocation de la thématique de la guerre.
Roselyne Letteron.
Oui, je vous rejoins en partie, mais pas tout à fait. Je suis d'accord sur votre analyse du fait qu'il y a un conflit extérieur, que ce conflit extérieur que personnellement, je n'appellerais pas guerre, d'ailleurs, pour des tas de raisons de droit international, parce qu'aucune guerre n'a été déclarée, et qu'il y a, en même temps, je dirais, un problème de sécurité internationale, au sens, on en parlait tout à l'heure, et qui désigne, en fait, la capacité de la communauté internationale à vivre en bonne harmonie. Et pour ça, dans le droit de la sécurité internationale, en droit international public, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le désarmement, on trouve le maintien de la paix, on trouve toutes ces questions-là. Non, moi, ce qui me pose plus problème, c'est de considérer que la problématique de la guerre serait, en quelque sorte, l'un des fondements de l'action 2015, grosso modo, des autorités françaises sur le territoire. Je veux dire, d'une certaine manière, l'état d'urgence montre absolument le contraire. Pourquoi ? C'est que la guerre, il s'agit surtout de se défendre. Il s'agit aussi, éventuellement, de punir des actions qui sont des actions contre la paix et la sécurité, précisément. Et donc, d'une certaine manière, la guerre, elle intervient toujours après, a posteriori. Le problème de la menace telle qu'elle existe actuellement, c'est que, justement, il ne s'agit pas de punir des comportements terroristes. Ça, c'est affreux à dire, mais on sait le faire. Je veux dire, il y a des juges antiterroristes, c'est une loi de 86, ça date de la première vague terroriste, qui était la vague schématiquement Brigade Rouge. Donc c'est complètement différent. Le problème, c'est qu'on a une menace qui est une menace diffuse, dont tout le monde sait très bien qu'elle ne vient pas nécessairement de l'étranger. Ce sont parfois des Français qui ont passé quelques mois à l'étranger, mais c'est une menace qui est dans la société. La sociologie des terroristes montre que c'est très souvent des gens éduqués, bien intégrés. Et donc le caractère diffus est quelque chose qui est une des caractéristiques. C'est aussi une menace, comme disent les militaires, qui est parfaitement asymétrique, c'est-à-dire qu'elle intervient avec des moyens qui sont des moyens qui n'ont rien à voir avec les moyens militaires et auxquels les militaires ne peuvent même pas riposter parce qu'ils ne sont pas en position précisément de répondre à cette menace, j'allais dire à la fois techniquement, sur le plan de toute une série d'éléments. Ce qui fait que le problème qui se pose est un problème de prévention. Et c'est là que nous avons des difficultés, parce que effectivement, on n'est pas habitué à gérer ce type de menace en disant il ne faut pas punir l'acte de terrorisme, il faut empêcher qu'il ait lieu. Et c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et donc, l'un des problèmes de l'état d'urgence, il est là. C'est que l'état d'urgence, il n'a pas du tout pour objet de chercher des terroristes. Il a pour objet d'empêcher des actes de terrorisme. Et effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, d'extrêmement difficile. C'est pour ça que le thème de la guerre me semble faire un petit peu obstacle à cette perception qui est celle des autorités.
Mais à vous écouter, on devrait faire durer l'état d'urgence de manière permanente, Michael Fossel.
Ah non, enfin pas
pour mais
je réagissais sur le fait qu'effectivement et enfin je crois d'ailleurs c'était aussi enfin je parle pas pour lui mais le sens de ce que disait Bruno, la question n'est pas de savoir si la guerre est la catégorie adéquate pour décrire ce qui nous arrive, mais le fait est, personne ne peut le nier, que c'est la catégorie utilisée et utilisée par les autorités qui sont d'ailleurs plus ou moins d'ailleurs légitimé
dès le 14
faire,
puisque, novembre d'ailleurs, dès le lendemain
voilà,
des attentats.
Puisque sauf erreur de ma part, même dans la constitution française assez présidentialiste, la guerre ne peut être déclarée que sous l'accord au moins du Parlement.
Bon. Assurez-vous, on n'a pas déclaré de guerre depuis...
Je sais bien, mais on a tout de même dit qu'on était en guerre. Et c'est pas un terme neutre, parce qu'il engage quand même un certain nombre de... Un effet d'abord de mobilisation, là on peut prendre le terme quasiment au sens littéral comme au sens militaire, un objectif de mobilisation autour de quoi? Et ça je crois qu'effectivement, là il ne s'agit pas d'avoir un point de vue critique ou pas, mais un point de vue analytique. Un effet de mobilisation autour de l'État. Bon. Et c'est quand même la question là qui me paraît ici centrale. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que l'action terroriste? C'est l'action terroriste, en tout cas l'action terroriste de masse comme celle qu'on a subie, c'est une action d'un groupe violent, contre la société civile, mais visant l'État, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est une triangulation. On attaque des civils, et à travers des civils, on attaque, ou on prétend attaquer, un État. Et que produit-on par là? Enfin, que produisent les terroristes? Du fait même qu'ils identifient des civils attablés à un café, à des soldats français ou à des soutiens du gouvernement, eh bien, ils créent un effet, tout naturellement, c'est ça qu'on a appelé d'ailleurs l'État, le deuil national, ils créent une solidarité, de fait, entre la société civile et l'État. Et là, il n'y a à mon sens rien à dire. Il y a effectivement un moment où la société civile, lorsqu'elle est attaquée, ou les civils, lorsqu'ils sont attaqués, se retournent vers les forces de police, éventuellement les forces militaires. C'est ce qui a justifié le deuil national et justifié sans doute, peut-être, le premier état d'urgence. Bon, effectivement, dans un sens préventif, pour que cela n'arrive plus. Bon. Mais il faut quand même aussi rappeler, parce que c'est, alors on retrouve sécurité, liberté, mettons que pour la sécurité, et pour autant que l'état d'urgence ait en quoi que ce soit empêché un attentat, ce qui pour l'instant n'est pas encore établi compte tenu de ce que nous en savons, la question qui se pose aussi, du point de vue de la liberté, disons en tout cas de la démocratie, c'est que la solidarité de fait créée par l'acte terroriste, comme d'ailleurs par un acte de guerre, pour le coup ça serait la même chose, entre société civile, mettons, et son gouvernement et ses services, il ne s'agit pas que du gouvernement, police, sécurité, renseignement, bon, ne doit pas, enfin ne devrait pas, me semble-t-il, en démocratie, se transformer en solidarité de droit. Et ça veut dire très concrètement que le maintien de l'état d'urgence sine die, je dirais, alors qu'il est précisé dans la loi que c'est sous la condition d'un risque imminent, mais l'imminence d'une attaque terroriste, elle est par définition permanente.
Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'à tout le temps vouloir prévenir un danger terroriste, finalement on reste en état d'urgence permanent.
Mais non, pas nécessairement. Je veux dire, là, c'est bien tout le monde dit, j'ai l'air de penser qu'il faut un état d'urgence permanent. Quelqu'un peut me dire si j'ai dit ça? Enfin, je ne sais pas, je ne crois pas. Non, simplement, ce que je dis, c'est que l'état d'urgence a pour but de prévenir. On est bien d'accord. Pour le moment, nous sommes en train de paniquer parce que ça fait 2 mois qu'il est là. Hein, 2 mois. Donc, ça va. On peut peut-être accepter un 3e mois, mais enfin ça je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'état d'urgence offre une période qui est une période pendant laquelle on peut aussi réfléchir au droit à élaborer, qui est susceptible peut-être d'évoluer pour réfléchir à ce genre de problème. Il y a eu des précédents, si vous voulez, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais il y a eu une époque où précisément dans ce but préventif, on n'arrivait pas, le droit ne permettait pas d'arrêter, de sanctionner des gens qui faisaient les préparatifs en vue d'un attentat. Et donc il fallait attendre qu'ils aient commis un acte pour pouvoir les arrêter. Alors c'est l'état de droit, je suis tout à fait d'accord, mais vous admettrez que c'est tout de même pas très satisfaisant pour l'esprit de savoir qu'il fallait que les personnes aient commis un acte terroriste pour pouvoir les arrêter. Et donc on a fait évoluer le droit et on a créé le délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste, qui d'ailleurs n'est pas très simple à gérer parce qu'il faut qu'ils aient agi. Alors on fait venir les éléments pour faire une arme, alors on attend qu'ils l'aient assemblé pour être bien sûr qu'on ait quelque chose, et puis après on les arrête sur la base d'association de malfaiteurs. Bon, là on a fait évoluer le droit. C'est un système qui manifestement ne suscite pas d'agitation particulière. Enfin, je n'ai pas vu d'opposition extraordinaire contre le délit d'association de malfaiteurs. Or, il est tout de même créé à but quelque part préventif. Et rien n'interdirait de penser, et le législateur, dans le fond, c'est son métier, il lui appartient de réfléchir aux éléments susceptibles de faire évoluer le droit. Et si on a un droit qui devient mieux adapté à la menace terroriste, on n'a plus besoin d'état d'urgence, ça peut être fait très rapidement. Je n'ai jamais dit qu'il fallait maintenir l'état d'urgence ad vitam aeternam. Simplement, pour le moment, moi je ne suis pas en mesure de juger du détail de la menace terroriste. On nous dit qu'elle est toujours présente, je veux bien le croire, je n'ai pas de raison de mettre en cause la bonne foi des autorités compte tenu de ce qui s'est passé. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord que l'état d'urgence n'est pas fait pour durer 10 ans ou 20 ans. Mais je ne vois pas pourquoi on ferait un procès d'intention maintenant en disant il va durer 10 ans ou 20 ans. Je ne suis pas en mesure de le faire pour ma part.
Vous avez employé le terme de législateur, vous avez mis l'accent sur le droit. Or là, la réponse vient d'abord de l'exécutif. C'est aussi ça, un des problèmes de l'état d'urgence.
Ben non, il est voté par la loi, non ?
Oui, mais pour l'instant, c'est le François Hollande.
Il y a un troisième terme, je crois, le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire. Car si l'état d'urgence, qui a quand même, à mon avis, un autre sens que préventif, a un effet, c'est celui précisément de permettre d'autoriser non seulement d'ailleurs des moyens d'enquête, mais des moyens de répression. Parce que l'assignation à domicile est une forme de répression, indépendamment du jugement a priori des magistrats. Et d'autre part, l'état d'urgence, il est prévu de le constitutionnaliser. Donc là, il ne s'agit pas d'un état d'urgence, je dirais, qu'on va simplement mettre de manière extrêmement limitée dans le temps la possibilité de l'état d'urgence va être vraisemblablement constitutionnalisée. Par conséquent, la question, je crois aussi, qui se pose, c'est de savoir comment, parce que c'est la question qui, évidemment, nous interpelle par rapport à l'année 2015, comment, je dirais, réagir à l'attaque terroriste et distinguons peut-être divers types de réactions. La réaction de l'État qui pourrait être une réaction, encore une fois, sur la base du fait qu'il y a un rapprochement État-société civile après le terrorisme. La réaction de l'État qui, on peut le dire, serait une réaction d'autodéfense, bon, et qui de ce point de vue prend un certain nombre de mesures dont on peut tout de même aussi discuter de la, du caractère efficace, mais admettons qu'il soit trop tôt pour le faire. Et puis la réponse qui est beaucoup moins audible dans le débat public, la réaction des citoyens, qui n'est pas nécessairement, elle, dans le mécanisme simplement de l'autodéfense ou la demande de sécurité, mais qui peut être, dont on pourrait penser qu'elle soit, une réaction d'exigence, d'approfondissement des libertés, de reconsidération de ce que c'est que la démocratie. Et là, il ne s'agit pas de jouer les bisounours kantiens contre les renards machiavéliens. Je rappellerai simplement que nous ne sommes pas les premiers en Europe depuis une dizaine d'années à être, la France, je veux dire, victime d'actes terroristes, y compris actes terroristes de masse. Il y a, ce n'était pas un acte terroriste du même genre, mais tout de même, il était de masse, la Norvège. Et il y a eu aussi, pour un acte terroriste beaucoup plus comparable à ce que nous avons vécu, l'Espagne. Ces deux pays n'ont pas réagi. Ni juridiquement, ni politiquement, de la même manière à l'attaque, aux attaques massives dont ils ont été l'objet. On a deux modèles de réaction, le modèle Bush, Guantanamo, Patriot Act, le modèle norvégien-espagnol. Je crains simplement que pour l'instant, la France n'ait choisi plutôt la première variante de cette alternative.
Bruno Bernardi.
Je voudrais prolonger ce que vient de dire Michael, d'accord. Sur la question, en revenant un peu sur la notion même d'état d'urgence. Alors, en faisant une remarque, bien sûr, que, techniquement, il est important de bien déterminer, et il faut le faire, vous avez raison, le sens juridique d'un concept dans son usage juridique. Mais il est important aussi, les termes techniques ont non seulement un arrière-fond, mais un usage, en dehors du discours technique, qui a un poids sémantique fort. L'idée de l'urgence est quand même potentiellement difficilement compatible avec le modèle de la prévention. L'urgence, d'ailleurs, c'est une réponse nécessaire, immédiate, à un péril imminent et qu'il faut immédiatement surmonter. Au demeurant, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les modèles qui ont servi à le penser, c'est celui des cataclysmes naturels, d'ailleurs. Donc, effectivement, il y a un tremblement de terre, un raz-de-marée, etc. On prend toutes les dispositions, je dirais, sans s'embarrasser, etc., pour sauver les vies, mettre à l'abri les biens, etc. C'est une chose. L'idée, par définition, d'une urgence qui dure est contradictoire. À ce moment-là, on ne parle plus d'urgence. On dit d'une situation d'insécurité, on parle de menace, etc. Mais ça n'est plus dans la même logique. Et pourquoi est-ce que c'est important de le montrer? Parce que, justement, la question du respect ou non des règles de l'état de droit change d'aspect. Parce que, dans la durée, on ne peut pas faire l'impasse sur l'état de droit. On peut, certainement, envisager des manières, entre guillemets, de le mettre en œuvre, des procédures qui gagnent en efficacité, qui gagnent en rapidité, etc. Mais la chose est incontournable. Et alors, ici, pourquoi c'est important? Parce que dans cette idée de durée, il n'y a pas simplement le temps, mais il y a aussi l'étendue. Excusez-moi, mais nous avons déjà vécu un problème fugitif et qu'on a vécu dans l'émotion. L'état d'urgence a été déclaré au moment où nous étions en campagne électorale. Il y a eu un accord pour suspendre la campagne électorale, puis de la reprendre sous des modalités, sur le mode mineur. C'était des régionales. Il y a eu très rapidement le contexte de la COP21. Et dans ce contexte-là, on a eu, je crois qu'on ne peut pas le dire autrement, un détournement de l'état d'urgence. Et un détournement qui, ici, a utilisé un argument qui, quand même, fondamentalement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des problèmes de sécurité qui se posaient, mais qui naturellement n'ont pas à être traités de cette manière-là. Des assignations à résidence, etc., etc. Or, ce détournement-là continue. Je vais évoquer un cas, lecteur de la presse du soir, l'ont vu peut-être hier soir, qui est en un sens amusant et qui concerne le sport. Vous aviez un grand article dans le Monde hier qui, j'ai oublié, quel petit club de 4e division en Alsace, pour lequel on vient, au nom de l'état d'urgence, d'interdire que les supporters du club adverse puissent venir. Et quel est l'argument employé? Qui est employé par des dizaines de préfets depuis le mois de novembre. Il a été le suivant. Dans le contexte de l'état d'urgence, on ne peut pas détourner les forces publiques de leur usage principal qui doit être de protéger, etc. Par conséquent, on ne peut pas les mettre à la disposition d'un match de foot, en l'occurrence, etc. Mais pas non plus, c'était le même argument qui est évoqué pour des manifestations dans la COVID-19, pour protéger des citoyens manifestants. Ces faits sont mineurs, par certains aspects grotesques. Mais soyons conscients quand même qu'ils sont porteurs d'une logique qui peut aller très vite, très loin. Excusez-moi, mais des élections autres que régionales sont devant nous. Est-ce que le danger imminent du terrorisme aura disparu d'ici la campagne présidentielle de 2017 ? Excusez-moi, mais je crois que celui qui pourrait le prétendre s'avancerait beaucoup. Alors, de deux choses l'une. Ou c'est cette raison-là qui justifie l'état d'urgence. Et la logique portera à continuer à l'employer. Imaginons simplement ce que signifie dans une démocratie une élection présidentielle que l'on fait sous l'état d'urgence. Je ne suis pas en train de dire que l'intention machiavélique de nos gouvernants est d'eux. Ce que je dis, c'est qu'il y a une logique qui est en train de se mettre en œuvre, qui ne tient pas la route politiquement, et qui a comme effet de passer pour profit et pertes les conditions d'exercice de la liberté politique des citoyens.
Alors, je voudrais rappeler un petit souvenir que j'ai et qui pour moi est un souvenir absolument délicieux. C'était, délicieux dans les suites, pas dans le souvenir lui-même, malheureusement. C'est lorsqu'il y a eu l'assaut contre Mohamed Merah, assaut ultra médiatisé par un ministre de l'Intérieur à l'époque qui aimait volontiers se présenter comme étant une sorte de commander-in-chief en matière de sécurité, par un président de la République qui venait sur place pour encourager ses troupes. C'était absolument formidable, en direct et tout. Et là, il y avait vraiment une utilisation politique, médiatique, d'une situation qui n'était pas un état d'urgence juridiquement, mais qui était tout de même juridiquement une situation d'urgence. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais ce qui existe. Une semaine après, il y avait des élections présidentielles. Et bien, celui-là même qu'il avait mis en scène a pris une pile. Ce qui prouve que, quelque part, la démocratie française est mûre. Et donc, moi, je ne rejoins jamais quand on me dit que, voilà, on va utiliser, on va manipuler, on va détourner. Je crois que non. Je crois que les Français savent très, très bien voir
ce genre de manipulation. Ce n'est pas du tout ce que je disais. Nous sommes dans un exercice qui consiste à analyser des concepts, des structures, des comportements, pour voir leurs effets.
Mais vous prenez des exemples.
Je ne prêtais, en l'occurrence, aucune intention à qui que ce soit. Ce n'était pas pour une manière de politesse ou d'hypocrisie. Je mettais simplement le point sur une difficulté, comme tout à l'heure pour la guerre. Je ne dis pas qu'on a voulu, entre guillemets, envelopper l'état d'urgence dans une rhétorique de la guerre. On l'a fait, ce qui est autre chose.
Oui, mais c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une communication sûre. Moi, je parle en droit, c'est-à-dire que les gens qui parlent de guerre, je veux bien admettre que même si c'est le président de la République, il a eu tort de parler de guerre. Juridiquement, ce n'était pas une guerre. On le sait très bien, tout le monde le sait, n'importe quel juriste, même vraiment débutant, le sait que ce n'est pas une guerre. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, effectivement, on peut maintenir et on peut critiquer le discours qui est fait. Maintenant, après, il y a des normes juridiques, il y a une application, si vous voulez, et les choses se passent différemment. Moi, sur le caractère préventif de l'état d'urgence, oui. Oui, vous savez, au JO, on en a vu plein sur ce que vous citiez, c'est-à-dire l'interdiction de déplacement des supporters. Je vous signale d'ailleurs que c'est le droit commun, c'est-à-dire que, en fait, on peut décider exactement la même chose sans aucun état d'urgence. Donc, il n'y a absolument, je dirais, aucune difficulté là-dessus, y compris quand on n'a pas assez de
force de police. Peut-être pas toujours les mêmes qui décident aussi, parce que l'état d'urgence
donne quand même
le pouvoir exécutif.
Si, c'est les préfets.
Oui, d'accord, mais il faut la possibilité du recours est limitée par l'état d'urgence. Sinon, effectivement, c'est du droit commun. Je veux dire, c'est pas que les mesures sont prises de manière... Les mesures sont exceptionnelles. L'assignation à résidence existe avant l'état d'urgence. C'est la possibilité et la rapidité et donc aussi l'absence, je dirais, de contrôle qui permet
l'état d'urgence. Il y a même un contrôle en référé qui intervient assez rapidement.
Oui, il intervient peut-être rapidement, mais je veux dire qu'il y a encore dans des personnes, un autre exemple que j'ai lu dans la presse du matin, cette fois-ci, montrait que le contrôle ne remet pas, enfin le temps du contrôle ne remet pas en cause l'assignation à résidence, qui est tout de même, il faut le rappeler, une condamnation aussi sociale.
Non, ce n'est pas une condamnation.
C'est une, j'ai dit sociale, je n'ai pas dit pénale. Oui. Donc une condamnation sociale parce que ça empêche d'aller travailler, parce que c'est une manière de stigmatiser. Je voudrais juste dire un petit mot sur état d'urgence. On peut discuter de la nuance, de l'opportunité, mais on ne peut pas discuter, parce que ça je crois que c'est factuel, sur le fait que ces mesures, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse un effort analytique ou pas, qu'on essaie de les remettre en cause ou pas, sont populaires. Bon. Et par conséquent qu'il y a une demande aussi de sécurité.
Voilà, il y a un désir de sécurité auquel répondent ces mesures.
Voilà. Alors, auquel répondent ces mesures, pour autant que ce désir soit naturel et spontané, ou auquel ces mesures, génèrent, si jamais ce désir est socialement constitué, ce qui est d'ailleurs absolument évident, puisqu'il est là. Il est là depuis un certain temps, mais il n'a pas toujours été là ou sous cette forme. Donc il est bien évident qu'il y a un désir naturel de sécurité, je dirais, fondé, comme dirait Hobbes, sur le principe de conservation, sur le désir de conservation, un désir vital en quelque sorte. Bon, jusque-là, je dirais rien de nouveau sous le soleil. Et puis il y a un désir de... Ce désir de sécurité, pourrait-on dire, se diffracte, évolue en fonction des conditions sociales et politiques. Et où en sommes-nous alors aujourd'hui? Là, j'aurais une hypothèse que je vais...
Il vous reste deux minutes, deux, voilà, trois minutes avant la fin du débat.
Alors, j'aurais vraiment moins qu'une hypothèse. Le terme de vigilance me paraît ici tout à fait central pour expliquer pourquoi ce n'est pas seulement dans la sphère policière, politique, par rapport au terrorisme, que ce désir de sécurité est, ou cette problématique du risque est diffuse, mais d'une certaine manière un appel à la vigilance qui est de plus en plus constitutif de nos vies. C'est-à-dire, moi j'appelle cela l'État libéral autoritaire. C'est-à-dire que dans la sphère, disons, de la vie courante, de la consommation, nous sommes non seulement invités, mais enjoints à être vigilants pour choisir le meilleur produit, le meilleur prix, pour faire en sorte...
Dans les transports...
Pour l'hygiène de la santé, et donc la sécurité de notre propre corps. Donc il y a toute une série d'injonctions sociales qui valent ce qu'elles valent, je ne les critique pas, mais elles existent, qui impliquent plus exactement une sorte de réflexivité permanente sur notre propre sécurité ou sur une gestion des risques, comme on le dit. Et je crois qu'il y a un lien entre ce type de subjectivité-là, attentif d'abord à sa propre conservation, à sa propre sécurité, et puis alors la demande de sécurité telle qu'on l'entend, c'est-à-dire qui épouse le fait de supporter ou d'être pour, au sens de supporter, pas du match qui n'aura pas lieu, le pauvre, mais d'être de supporter de l'état d'urgence. Et je m'arrête en simplement en citant, ce qui me paraît révélateur, un slogan que l'on entend en permanence dans le métro parisien, tout le monde, ou presque tout le monde ici l'a entendu.
Attentif ensemble.
Attentif ensemble. Alors philosophiquement, il faudrait peut-être toute une émission. Peut-on être attentif ensemble, ou est-ce que cette exigence de vigilance ne ramène pas plutôt à un isolement? Attentif ensemble. Ou alors est-ce que cela veut dire que la communauté ensemble va être fondée uniquement sur la défiance, l'attention au sens...
Surveillez-vous les uns les autres.
Voilà, surveillez-vous les uns les autres. Si c'est cela, alors effectivement, état d'urgence ou pas, aspect d'échéance de la nationalité ou pas, il y a une manière d'aborder la démocratie quand même d'un point de vue très particulier qui mérite discussion.
Le dernier mot, Roselyne Létron.
Oui, alors je dirais que ce n'est pas tant un problème de démocratie qu'un problème d'état de droit. Moi, je crois que la vigilance de chacun est effectivement à l'égard de l'état de droit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état de droit? Pour moi, mais pour beaucoup de juristes aussi, c'est le fait que les normes aient été adoptées soit directement par le peuple, mais ça n'arrive pas souvent, soit par les représentants du peuple. Donc, j'ai un petit peu de mal quand on me dit qu'on est hors état de droit dans une situation où nous avons une loi qui a été votée par le Parlement, où le projet de révision constitutionnelle va passer devant le Parlement. Et que dit-il, le projet de révision constitutionnelle? Attention, il nous dit simplement l'état d'urgence, c'est du domaine de la loi. Les questions de nationalité, c'est du domaine de la loi. Il appartient donc au Parlement de se prononcer. Moi, je ne vois pas où est la violation de l'état de droit là-dedans. Alors, effectivement, à partir de là, nous avons tous un devoir de vigilance pour savoir si nous sommes d'accord, pas d'accord, avec le projet qui est présenté. Si nous ne sommes pas d'accord, c'est formidable, il y a des élections ensuite. Donc, nous pourrons toujours voter. Moi, honnêtement, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de mal à percevoir des violations de l'état de droit en tant que tel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être attentif, qu'on ne doit pas regarder, qu'on ne doit pas regarder les contrôles. Et par exemple, sur le juge, on nous dit ben, c'est abominable parce qu'il y a un contrôle par le juge administratif. Et j'ai eu beaucoup de gens qui disaient mais regardez, le juge administratif, il a été atroce pendant Vichy, etc. C'est pas un juge qui pratique l'état de droit. Ben oui, mais enfin, le juge judiciaire, est-ce qu'il est tellement plus impartial? Nous avons un parquet dont la Cour européenne refuse de considérer que ce sont des magistrats parce qu'ils sont rattachés à l'exécutif. Hein, tout de même, c'est un peu fâcheux. Et puis, si on regarde l'attitude du juge judiciaire pendant Vichy, ben, regardons la section spéciale, ça nous donnera des idées. Si on en est à ce type de débat, vous voyez. Donc, voilà, l'important est qu'il y ait un contrôle. Il faut voir comment ce contrôle est effectif. Est-ce qu'il y a eu des annulations d'assignation à résidence? Oui, il y en a eu. Est-ce qu'il y a un contrôle? Il y a énormément de contrôles. Donc, moi, j'attends, je suis la première à être vigilante. Quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas sur le plan de l'état de droit, je le dis. Mais là, je trouve que c'est un peu prématuré pour moi. Voilà.
Merci. Juste Bruno Bernardi, si vous voulez clore.
Oui.
Vous avez quelques secondes.
En deux phrases, oui. Je vais, point de départ, emprunter à Rémi. Votre blog est magnifique. Et en particulier, la phrase de Montesquieu que vous avez mis en tête, laquelle dit que la liberté est ce bien qui nous fait jouir de tous les autres biens. Pensée 1774. Alors, bien sûr, comme c'est une pensée isolée chez Montesquieu, on peut s'interroger sur la façon de la comprendre. Il y en a deux. Alors, il y en a une qu'on a le droit, qui est peut-être possible, mais qui consisterait à dire, au fond, quand on est libre, parce qu'on peut tout faire spontanément, on jouit bien de tous les autres biens dont on peut disposer, on va se promener librement, etc. Puis il y a une autre interprétation, peut-être plus intensive, et consiste à dire la liberté est ce bien qui est la condition de possibilité de la jouissance de tous les autres biens. C'est cette lecture-là, pour ma part, que, sur laquelle je voudrais terminer en disant que la question fondamentale, c'est, je le disais, est-ce qu'on peut concevoir la sécurité comme quelque chose qui peut être antagoniste à la liberté, avec la liberté, qui est un moyen pour la liberté, une condition de possibilité, ou est-ce que, à l'inverse, on peut avoir dans l'idée de la liberté, et ici j'entends que la liberté politique, comme la seule manière de penser véritablement comment vivre paisiblement, comment vivre tranquillement, comment précisément vivre en paix, c'est-à-dire en sécurité.
Merci beaucoup, merci à vous trois, Bruno Bernardi, Michael Fossel et Rosine Mépin. Et donc voilà venu le temps des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Je voudrais savoir si on peut élargir une telle réflexion sur le plan international. Je voudrais dire par là, est-ce que nous sommes en train de façonner un nouvel ordre sécuritaire mondial? Ça veut dire qu'il y a les régimes occidentaux, pour ne pas accuser les peuples, qui font leur guerre. Les Américains ont fait leur guerre. Le président Bernard-Henri Lévy a fait sa guerre en Libye. Il a ouvert la voie justement à l'insécurité en Afrique. Et maintenant, on voit les conséquences sur le plan planétaire. Et on ne peut pas justement s'interroger sur les conséquences que tout cela a pu produire. Donc maintenant, on demande à ces États et à ces peuples qui vivent dans le drame, parce que les premières victimes, justement, ce sont essentiellement les peuples musulmans, et on demande à leur régime d'assurer la sécurité pour assurer la sécurité ici. Donc il faudrait peut-être élargir le débat pour ne pas rester dans une réflexion étriquée et réduite par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Merci.
Michael,
j'ai un mot à répondre rapidement, mais parce que je ne suis pas ici ni spécialiste ni habilité à parler pour la géopolitique, donc j'ai un avis de citoyen qui sur les événements auxquels vous faites référence, mais il n'est pas plus habilité ou donc par conséquent que n'importe lequel d'entre nous. Ce que je pourrais dire par rapport à ce que vous avez, ce à quoi vous avez fait référence, c'est qu'on parle de guerre ou qu'on parle d'intervention. Alors évidemment, en ajoutant humanitaire, tout ça a été fait l'objet de critiques évidemment. Ce qui est certain, c'est que dans ce que rappelait Bruno Bernardi sur l'année 2015, le rapport terrorisme-guerre-migration, ça montre aussi un élément fondamental. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais si je puis dire, là on l'a ressenti, y compris d'ailleurs de manière douloureuse dans notre chair, si je puis dire, c'est la mondialisation, si vous voulez, ce qu'on appelle globalisation. Autrement dit, l'idée qu'on peut aller... L'idée, au fond, du concept d'impérialisme, c'est-à-dire l'idée qu'on va faire des guerres à la périphérie, comme la guerre du Vietnam autrefois, pour régler un différend qu'on ne peut pas régler entre Union soviétique et États-Unis, on ne peut pas, pour toute une raison, à commencer par l'arme nucléaire, régler en face à face. Cette pratique de la guerre périphérique, je dirais, qui ne revient jamais sur le sol national sous une forme indirecte, eh bien, elle est abolie par les mutations liées aux frontières, par la globalisation, par la possibilité, heureuse et parfois évidemment malheureuse, on pense à ce qui se passe en Méditerranée, de franchir les frontières. Autrement dit, on peut avoir, et on doit avoir, et certainement chacun d'entre nous a, une appréciation sur fallait-il bombarder la Syrie, bombarder l'Irak, fallait-il attaquer l'Irak en 2000, je ne sais plus quand c'était, 2003, les États-Unis, là, globalement, le consensus est plus négatif et plus grand, je crois. Bon, mais indépendamment de ça, ce qui est certain, c'est qu'on doit se dire que quelle que soit l'intervention qu'un de nos États, France ou autre, pratiquera hors de nos frontières, ça aura nécessairement des conséquences, cette fois-ci, du fait même de la globalisation des flux, en l'occurrence, eh bien, cela aura et aussi de la présence sur notre territoire de toute une série de personnalités, enfin de personnes plutôt, de confessions non seulement musulmanes, mais de confessions diverses et de nationalités diverses. Le multiculturalisme dont il a été question, je crois, dans un débat différent, fait que ce qui est ressenti, ça me fait penser à la phrase, et c'est aussi pour le bien, pas seulement pour le mal, là j'évoque évidemment la question en rapport à la guerre, comme le disait Kant, une injustice ressentie en un point de la Terre, aujourd'hui peut être vécu à l'eau depuis ou quasiment en temps réel. Bon, évidemment, à l'époque de Kant, c'était pas via les chaînes de télévision en temps réel. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'était plus lucide comme jugement. Mais le fait que nous ne sommes plus dans des États absolument souverains duquel ou qui peuvent ou qui ont la puissance de se tenir en quelque sorte à l'abri des effets des politiques qu'ils mènent hors de leurs frontières.
Alors, à vous entendre, on a l'impression que vous êtes globalement plutôt contre la reconduction d'un état d'urgence. Or, l'opinion générale, l'opinion dans les sondages est majoritairement favorable à l'état d'urgence, justement. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que les intellectuels sont plutôt plus angéliques ou est-ce que c'est l'opinion qui est plus bête et méchante?
Je peux essayer de répondre à cette question. Bien sûr, ni l'un ni l'autre, je ne crois pas, ni que les intellectuels, entre guillemets, sont angéliques, si tant est qu'on puisse qualifier ici d'intellectuels. Il y a une question, d'abord, fondamentale, de point de vue. Je veux dire, en tant qu'intellectuel, plus précisément, simplement en tant que philosophe, on a tout simplement à essayer de dégager la logique d'une chose, d'une conduite. Et que ça convienne à tel ou pas, c'est pas ça qui doit être pris en compte. Mais cette question renvoie à ce que nous avons pu, malheureusement, seulement ébaucher dans cette fin de notre débat, c'est la question du désir de sécurité. Et Michael posait une question quand même importante, qui est celle de la façon dont le désir, ou l'expression du désir d'ailleurs, ou de ce qui peut apparaître comme un désir, est constitué et provoqué. Et je ne suis pas sûr, entre guillemets, que lorsque l'on pose la question du prolongement de l'état d'urgence à la population, la réponse se rapporte à ce qu'est réellement l'état d'urgence. Alors, pour l'essentiel, le rôle du débat public n'est pas ici de dire qu'il y a quelqu'un qui a la vérité et l'autre non, le petit nombre qui aurait la vérité contre le grand, c'est pas ça la question. Mais c'est, en guillemets, dans le débat et dans la façon d'éclairer les termes du débat qu'on peut créer les véritables conditions d'une démocratie qui ne s'exprimera, excusez-moi, mais jamais par sondage.
Oui, juste un mot, la question n'est plus tant celle-là de la prorogation ou non de l'état d'urgence. La question est de celle que nous avons vécue pendant, c'est vrai, un certain nombre d'années tout de même dans le bonheur, tout au moins dans le bonheur juridique, dans un temps qui était un temps de mer calme. Or, il y a toujours eu, notamment dans les constitutions, et si on regarde l'histoire des constitutions, y compris dans le monde entier, dans les constitutions, des normes qui étaient prévues pour les temps de tempête. Par exemple, nous, dans la nôtre, il y avait l'article 16, et il y avait l'état de siège. Deux normes parfaitement inapplicables aujourd'hui, je vous en conviens parfaitement, parce que les conditions ne sont évidemment pas remplies et ne risquent pas de l'être. Et du coup, eh bien, nous n'avons pas dans la constitution de normes de temps de tempête. Et notre droit en est un petit peu privé. Alors on s'en est très très bien passé pendant des années et des années. Maintenant, la question est posée. Je ne dis pas que j'ai la réponse, mais je dis que c'est normal que le Parlement se pose la question.
Merci.
Merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Nous aurons le plaisir de vous donner à entendre la leçon de clôture proposée par Régis Debray au terme de la journée de débat enregistrée samedi 30 janvier au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Régis Debray qui nous a fait part d'une actualité très personnelle, celle de Walter Benjamin.